France Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
Boomba. Sugar cane sweet, but can your love be sweeter? So bolo juice mix with a little ginger. Oh girl, I wanna be with you, but you know they got enough time for me. I wanna live with you. I got the reason why I can't let go. Girl, you never know, say you come gossip. Man, them suffer to find your love. Girl, you never know, say you come gossip. Man, them suffer to find your love.
Ça y est, on a attendu. Elle nous rejoint en direct sur le plateau d'Africa Radio. Juliette Bas est journaliste, elle est multicasquette et coach mieux-être. Nous allons parler mieux-être au féminin tout au long du mois d'août, le lundi à la même heure. Bonjour Juliette Bas, comment ça va ?
Bonjour Aïssa, ça va très bien. Merci de me recevoir.
Alors merci de venir partager tes connaissances, tes expériences avec nous. Est-ce que tu peux d'abord te présenter aux auditeurs qui nous écoutent ce matin, Juliette ?
Bien sûr. Alors bonjour à tout le monde. Je m'appelle Juliette Bas Mérès. Je suis de formation journaliste, animatrice télé et radio, et depuis une dizaine d'années, j'ai repris des études pour être naturopathe et professeure de yoga, et je suis devenue coach en mieux-être. Donc j'accompagne les hommes, les femmes, les couples, les jeunes gens qui ont besoin d'aller un peu mieux dans la tête ou dans le corps. Voilà, j'aide les gens à aller mieux, à se sentir mieux, à s'accepter, à s'apprécier, à s'aimer. Voilà.
Et quel a été le déclic en fait ? Qu'est-ce qui t'a poussé dans ce sens ?
Alors, pendant de nombreuses années, une très grande partie de ma vie, j'ai eu une maladie qui s'appelle l'endométriose,
oui.
Qui a créé de nombreux bouleversements dans ma vie de couple, mariage, divorce, dans ma sexualité, dans ma vie de femme professionnelle, mais aussi dans mon désir de devenir maman, puisque ça n'a jamais été possible. Et donc, au bout d'un moment, après plusieurs interventions chirurgicales, après plusieurs traitements très lourds, après plusieurs ménopauses artificielle, j'ai essayé de me tourner vers des choses plus naturelles. J'ai découvert la relaxation, la respiration abdominale, le yoga, puis les tisanes, les plantes, les huiles essentielles. Et j'ai été tellement enthousiasmée en fait par cet environnement, par tout ce qui touchait à ce que nous donne en fait la terre-mère, que j'ai décidé de me former. Je suis devenue donc naturopathe et professeure de yoga.
Alors, on ne va pas insister trop dessus, mais c'est important, je pense, de l'évoquer pour les auditeurs qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont concernées par cette problématique qui est l'endométriose.
Oui.
On n'en parle pas beaucoup. C'est un terme qu'on a découvert comme ça ces dernières années, puisque des femmes comme toi osent en parler sur les réseaux sociaux. Alors, en gros, c'est quoi l'endométriose? Et dites-nous pourquoi... c'est aussi problématique pour une femme qui le vit.
Alors, c'est pour faire simple, c'est une maladie gynécologique qui affecte le fonctionnement des organes reproducteurs en créant de l'inflammation dans tout le petit bassin et dans d'autres endroits. En gros, on a une partie de l'utérus qui s'appelle la muqueuse utérine. Donc, c'est une couche qui est au niveau de l'utérus. C'est une couche qui s'épaissit tous les 14e jours pour recevoir un embryon. Et lorsque cet embryon n'existe pas, donc quand l'ovule en fait n'est pas fécondé, l'ovule sort, il s'évacue, et cette muqueuse là qui s'est formée pour accueillir l'embryon s'évacue aussi. C'est ça les règles,
c'est
en fait.
Non, c'est voilà. D'accord, on est d'accord.
Et dans l'endométriose, il y a un dysfonctionnement. Au lieu que toutes ces particules s'évacuent normalement par le vagin de la femme, il y a des cellules de l'endomètre qui vont aller se nicher dans d'autres organes. Elles vont migrer. Elles vont se nicher dans d'autres organes et elles vont avoir le même fonctionnement que si elles étaient au niveau de l'utérus. Ça veut dire qu'elles vont s'épaissir tous les 14e jours et elles vont s'évacuer tous les 28e jours. Mais comme il n'y a pas de voie d'évacuation, ben ce sang-là va rester,
d'accord,
va créer ce qu'on appelle des kystes chocolatées. Ça va créer de l'inflammation, des douleurs. Ça peut affecter la fertilité. Ça peut aussi affecter la qualité de la vie au quotidien. Donc c'est une maladie qui n'est pas visible malheureusement. Et qui pendant très longtemps a été méconnue, donc les femmes ont souffert, on a considéré que c'était juste des règles douloureuses. Ça commence un peu mieux à être connu, on commence à se battre, il y a beaucoup d'associations, mais bon, il y a encore du travail à faire.
Bon, on va pas aller plus loin sur ce sujet, même si j'aimerais bien y revenir, parce que je sais que tu as vraiment une connaissance sur ce sujet qui est l'endométriose. Alors aujourd'hui, on va parler de désir dans le couple. Vas-y, c'est parti.
Alors, je vais commencer avec cette petite intro. Youp la boum ou le mougli. Au début était le feu, la flamme. La fusion, les frissons, les rideaux, on grimpait matin, midi, soir. Le rugissement du lion et le feulement de la gazelle. Les corps se mélangeaient et de la lave en fusion. 50 nuances de mougouli et puis un jour, cratata, plus rien ne décolle.
Parapapa.
Pourquoi, comment, on en parle aujourd'hui. Ah, le désir.
En tout cas, quelle introduction. est-ce que tous les couples vivent ça?
Alors, je suis pas sexothérapeute, hein, même s'il m'arrive de coacher des couples. Je pense que dans tous les couples, il y a des phases. Le début où tout est tout feu, tout flamme, où dès qu'on s'effleure, c'est magnifique. On libère beaucoup de dopamine, d'endorphine, de sérotonine. On libère des hormones et donc on est sur un petit nuage. Et puis bon, ça monte, ça descend, ça fluctue. Parfois c'est le travail, parfois c'est l'argent, parfois c'est les grossesses. Donc je pense que oui, je pense que tous les couples en général vivent des phases dans la sexualité, dans le désir, dans la libido, qui sont plus ou moins ascendantes et descendantes.
Et pourquoi c'est important d'aborder ce sujet?
Parce que même si on refuse de l'admettre, je pense que souvent la sexualité est le cadre où s'expriment et se matérialisent les discordes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes de communication, de d'éducation, de valeurs différentes. On partage pas la même vision de la vie, la même gestion de l'argent, mais on peut en parler ou on peut ne pas en parler, mais ça va avoir un impact sur la sexualité. C'est-à-dire que quand il y a des divergences déjà à la verticale, en général à l'horizontale, ça se manifeste par un refus de la femme de faire l'amour avec son mari, ou un mari qui va voir ailleurs, ou une femme qui va voir ailleurs.
Pourquoi c'est tabou dans nos communautés de parler de ça?
Mais je te retourne la question. Ah vraiment, tous les grands-parents qui nous écoutent, faut expliquez-nous, parce qu'on est fatigués. Il n'y a pas d'école pour le mougouli. Hein? C'est la seule. J'ai dit souvent dans mes masterclass que vraiment l'affaire de la sexualité là, c'est le seul truc où on te demande d'avoir un diplôme sans aller à l'école. Pour conduire une voiture, tu vas passer ton permis. Pour être médecin, tu vas aller à la fac. Pour être professeur, tu vas aller à la fac. Mais l'affaire de mougouli là, écoute, lit des livres, regarde des trucs, mais machin, mais voilà. C'est rare dans nos sociétés sous les baobabs, là, qu'un parent éveille son enfant à ce genre de choses. L'appel lui parle. On va peut-être aller vers ce qui est contraception dans certaines sociétés un peu plus libres dans la tête, où on va être dans l'interdit. Une jeune fille en Afrique de l'Ouest, en tout cas je parle du Sénégal parce que c'est ce que je connais, très souvent quand elle va avoir ses règles, on va l'avoir à l'œil en fait. Où on va lui dire d'une certaine façon.
Du jour au lendemain, ça y est.
Maintenant, attention, tu es une femme, hein, voilà. Faut pas traîner avec les garçons, faut pas faire ci. Mais il va y avoir des interdits. Mais en règle générale, on n'explique pas, en fait, parce qu'on n'accompagne pas forcément le petit enfant ou l'adolescent, le préadolescent, dans sa sexualité, dans la découverte de son corps. C'est très tabou. On ne touche pas à ça. Quand une petite fille ou un petit garçon commence à se toucher les organes génitaux alors qu'il a 2-3 ans et qu'on est en train de le changer, on va lui taper sur la main.
Alors qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir avec la sexualité.
Non, il est dans l'exploration de son corps. Et une petite fille, c'est pareil. Mais on va taper sur la main, on va dire en dialecte, hey, boula libarul, je parle en wolof, mais en créole, ça sera pareil, kobomeche. Et j'imagine que dans ton dialecte à toi, c'est la même chose. On touche pas, non, ça c'est pas bien, faut pas toucher, faut pas. Et l'enfant, il grandit avec ça. Et puis, il grandit dans une société où c'est tellement tabou qu'en fait, il va voir des images de sensualité ou de sexualité à la télévision, avec des gens qui s'embrassent, ce genre de choses, mais. Dans le cadre familial, c'est tabou, on n'en parle pas. Même quand il va y avoir des images un peu déplacées, entre guillemets, à la télé, on va dire aux enfants de sortir, ou on va... En tout cas, moi, à l'époque, c'était comme ça. Bon, maintenant, les enfants ont un peu plus accès à ce genre d'images ou de films ou de scènes, mais c'est très, très tabou dans nos sociétés. Les adultes, la génération de nos parents, de nos grands-parents, c'était quelque chose dont on ne parlait pas. Et du coup, ben, les parents, encore aujourd'hui, ne sont pas très à l'aise avec ça.
Alors justement, au sein du couple ou au sein du couple mari et femme, il y a certaines sociétés, par exemple chez les Soninké, il y a le manioc-ompé, mais c'est juste au moment du mariage, la veille, quelques jours avant, que la tante, par exemple, vient expliquer à la femme ce qu'est la sexualité dans un certain cadre, sans aller
en
profondeur. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ?
Je pense que, sur le principe, l'accompagnement est nécessaire. Je me bagarre souvent, gentiment, hein, sur Internet, avec les gens qui me disent « Oui, mais toi, tu es trop tout babé, tu veux parler de la sexualité, tu veux... » Je dis non, moi je suis OK avec le principe de « On est dans des sociétés où on ne fait pas l'amour avant le mariage. » Je dis « Mais c'est entre guillemets, parce que vraiment, que toutes les personnes qui sont arrivées vierges et puceaux au mariage me jettent la première pierre. » Mais ce que je veux dire, c'est que pour les gens qui respectent ça, je suis pour un accompagnement. On ne peut pas laisser deux personnes se marier alors qu'elles n'ont jamais eu de relation charnelle, de relation intime. On peut pas les laisser comme ça dans la nature. Et pareil pour un homme qui a déjà eu des relations intimes et pas une femme, ou le contraire. On ne peut pas laisser des gens partir comme ça quand on connaît l'importance de la relation intime dans le couple. Donc je suis, pour répondre à ta question, je suis d'accord, mais je trouve que cet accompagnement-là, il est plus souvent axé sur voilà, ton mari va te faire ça, ça va faire mal, tu vas pleurer, mais si tu saignes, nous la famille on sera honorés, voilà, donc c'est pas grave. Après tu t'assieds dans la bassine, tu mets le karité, et puis ça va passer. C'est beaucoup plus complexe que ça quand même.
Alors là, on va faire au feeling aujourd'hui parce que ça se passe bien. Et il y a une personne qui veut intervenir. Je crois que c'est Mathieu.
Oui.
Tu veux bien qu'on l'accueille ?
Bien sûr.
Mathieu ?
Oui, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Voilà.
Vous nous appelez d'où, Mathieu ?
J'appelle de l'Île-de-France.
Oui.
De Bouger.
D'accord.
Et voilà. Bon, un peu, je regrette un peu nos traditions, nos principes, nos valeurs qui ont été perdues.
Mm-hmm.
Voilà, parce que quand je regarde la société aujourd'hui, elle est très, très, très différente de ce que j'ai vécu avant. Donc.
Vous avez quel âge, Mathieu ?
J'ai 37 ans.
D'accord. Donc, ce que vous avez vécu avant en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte ?
En tant qu'enfant, j'ai vu la société changer petit à petit devant moi. J'ai vu la société, à mes 30 dernières années, se transformer devant moi.
C'est pour Akata.
Voilà, un peu de ces 30 années ont passé devant moi. Et franchement, je regrette ce qu'on a perdu. Je regrette.
Mais dans quel sens, plus précisément?
Vous regrettez quoi?
Bon, en fait, j'entendais tout de suite, la dame dit tout de suite, quand un enfant commence à explorer son corps, je voudrais dire quelque chose. Il n'y a personne qui naît efféminé. Il n'y a personne qui naît homosexuel. Il n'y a personne qui naît comme truc. Là, on devient, on se transforme petit à petit. Il y a des choses que, par inattention, on ne regarde pas et ça marque les enfants. Ils grandissent avec ça. Mm-hmm. Et moi, dans ma vie, j'ai été marqué par des choses. Je vais pas, c'est très, très personnel. Je ne vais pas en parler à l'antenne. Mais je préfère qu'on puisse éduquer nos enfants. Regardez nos valeurs qu'on a perdues avant, pas cette valeur.
Mais pour vous, donc, du coup, la question, parce que là, vous parlez plus des questions relatives au genre, etc. Mais nous, on n'est pas sur cette thématique-là. Et la question, c'est, selon vous, est-ce qu'on doit avoir une éducation à la sexualité? Est-ce qu'on doit en parler à nos enfants ou à nos jeunes filles ou à nos jeunes garçons?
Je pense que chaque chose arrive avec le temps. Un enfant, il y a une manière d'éduquer un enfant. Il a une manière d'éduquer un jeune. Il a une manière d'éduquer un jeune homme. Et une jeune fille aussi, pareillement, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Faut pas apprendre des enfants ce qu'un adulte, il doit savoir.
Oui, ça, on est d'accord. Mm-hmm. Bah, ça, on est d'accord.
Et par rapport à la question de tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, on parle du désir dans le couple, on parlait des personnes qui n'ont jamais eu de relations intimes et donc qui arrivent dans le couple, pour l'homme comme pour la femme. Parfois, ça peut être simplement la femme qui n'a jamais eu de relations charnelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'un accompagnement serait nécessaire?
De toute façon, c'est ce que je disais tout de suite, les parents, ils savent accompagner. Une fois qu'ils ont préservé leurs enfants jusqu'à ce que les enfants soient purs jusqu'à la majorité, ils savent, ils sauront comment continuer à accompagner les enfants ou selon les valeurs qu'ils ont apportées à leurs enfants. C'est normal de les accompagner.
Mathieu, de manière concrète, de manière très concrète, je vous coupe, excusez-moi, de manière très concrète, vous avez une fille qui demain se marie, elle a 25 ans, elle n'a jamais eu de relations intimes, elle se marie avec un homme qui en a eu ou qui n'en a pas eu, vous lui dites quoi? Ou vous avez un fils, encore mieux, vous avez un fils qui se marie, qui n'a jamais eu de relations intimes, qu'est-ce que vous lui dites la veille de son mariage?
Bon, ça serait très complexe pour moi, d'autant que j'ai jamais rencontré, j'ai jamais vu encore ces gens de cas.
Non, okay. Vous comprenez pourquoi il y a des problèmes de sexualité dans les couples.
Mathieu, en tout cas, merci pour votre contribution.
Merci beaucoup.
Merci pour votre appel. On va prendre rapidement un deuxième appel, Jomo de Beng, parce que du coup, j'ai pas trop envie qu'on stagne.
Oui.
Jomo, ça va?
Oui, comment vas-tu?
Bonjour.
Ça va, Jomo, très bien.
Ah ben, dis donc, ça fait longtemps avec ça.
Ça fait un bail, hein.
Bienvenue, j'imagine.
Merci.
C'est pour de bon, non, n'est-ce pas?
On verra ce que Dieu décide.
Ben écoute, chez nous les musulmans, il faut croire.
Allons-y, Diomo, on vous écoute sur
ouais,
la thématique.
Ben, franchement, la coach, ce qu'elle a dit là, normalement ça manquait à notre radio, hein, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'elle dit, c'est la pure vérité. Et moi d'ailleurs, même quand j'étais tout jeune, hein, je suis plus tout jeune hein, de toutes les façons, quand je te vois, tu me dis, ouais, il faut qu'on reste là jusqu'au mariage, je te dis, ben écoute, fais ton chemin, hein. Parce que jusqu'au mariage, tout ce que tu vas faire entre-temps, moi, je fais quoi, moi? Ou on attend généralement ça dans la religion chrétienne, quoi.
Mm-hmm.
Où on parle de chasteté et tout ça.
Oui.
Et en plus, même la chasteté, c'est des personnes déjà qui sont passées à l'acte, hein. Qui te font croire qu'il faut attendre la chasteté, mais pourquoi elle n'a pas attendu la chasteté?
Alors, sur cette question d'accompagnement du couple par rapport au manque de désir ou à la baisse de libido dans le mariage, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce qu'il faut accompagner les couples avant qu'ils se marient sur le plan de la sexualité? Qu'est-ce qu'il faut leur dire?
Franchement, moi je dis que c'est de la mauvaise foi, mm-hmm. au niveau de tout le monde, hein, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est de la mauvaise foi. Vous savez, les gens qui disent oui, je me suis enlacé, c'est ceci, c'est cela. Mais pourquoi au début, tu ne lui as pas dit ça au monsieur? Généralement, les femmes, au début, elles sont très sexes. Hein. Et à la fin ou au milieu, ah non, je suis plus sexe. Mais qu'est-ce qui a changé en ce temps?
C'est ça.
C'est pas la manière.
Uh-huh.
C'est pas le matériel qui fait l'acte sexuel qui a changé.
Alors, c'est bien que vous mettiez l'accent sur ça, Jomo. Merci beaucoup. Ça me permet de.
Mais je vous dis, c'est très malheureux, madame. Hein.
Mais j'en suis convaincue.
Il faudrait que les femmes se disent que dans la vie, il y a ce qui est la réalité, il y a ce que les autres...
Donc le problème, c'est que nous, quoi.
Non, c'est pas ça, c'est tout le monde. Moi, je trouve malhonnête.
Tu viens de nous donner une...
Vous trouvez malhonnête quoi? On vous laisse terminer?
Ça, je vous dis, c'est malhonnête, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes, de dire que oui, je suis plus sexe, alors qu'au départ, tu l'étais. De toutes les façons, quand tu vas voir une femme, que tu n'as pas de sexe, elle ne te veut pas. Et aujourd'hui, pour terminer, elle a dit tout à l'heure que arriver au mariage vierge de nos jours, tu sens, il y a peut-être deux. Je suis désolé.
Merci pour cette intervention, Jumeau. Et je pense que du coup, ça va t'ouvrir un tunnel, Juliette.
Écoute, ça m'ouvre une avenue. Ça m'ouvre une méga hyper autoroute pour aborder effectivement ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que sur la question de la baisse du désir, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein, pourquoi est-ce que dans le couple, le désir baisse? Il y a deux aspects qui sont fondamentaux pour moi. Le premier aspect, c'est ce qui va concerner l'homme précisément et la femme précisément, c'est-à-dire chacun de son côté. Qu'est-ce que c'est ma vision de la sexualité? C'est-à-dire qu'en fonction de mon enfance, mon adolescence, mon éducation, la perception que j'ai de mon corps, j'ai une vision de la sexualité, ouais. J'ai une perception de la sexualité. C'est propre, c'est sale, c'est tabou, c'est pas bien, c'est haram, bref. Cette vision-là, elle va me porter, elle va me guider. Et c'est elle qui va faire que je vais être plutôt réceptif ou réceptive, ou au contraire, je vais pas pouvoir me laisser aller. Ensuite, il y a le rapport à mon corps, aussi bien pour l'homme que la femme. Et peut-être un peu plus pour la femme. Quel est le rapport qu'elle a à son corps? Quel est le rapport que moi j'ai à mon corps? Est-ce que je connais mon corps? Est-ce que je me trouve belle? Est-ce que je me trouve jolie? Est-ce que je me trouve séduisante? Est-ce que je me trouve sensuelle? Est-ce que j'aime qu'on me regarde? Est-ce que je suis sûre de moi? Ou est-ce que j'ai plein d'artifices, des faux cils, des faux ongles, des fausses fesses, des faux seins, des talons, du maquillage à outrance, des perruques ou des mèches ou quoi? Et qu'il y a que comme ça que je me sens belle et séduisante? Parce que on est aujourd'hui dans une dynamique où il y a beaucoup beaucoup d'artifices sur la femme. Ouais. Donc quand la femme se voit et qu'elle met plein d'accessoires et d'artifices et qu'en plus elle fait un selfie avec des filtres et qu'elle poste ça, entre ça et qui elle est quand elle se lève le matin et qu'elle se regarde dans le miroir, il y a une différence. Donc parfois ça peut altérer la confiance qu'on a en soi-même. Donc la perception de son corps en termes de réalité, qui je suis quand je suis nue, sans artifice, sans make-up, sans gaine pour tenir mon ventre, sans push-up pour booster mes fesses ou mes seins, c'est ça. Est-ce que je suis à l'aise avec ce corps-là? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième, si j'ai travaillé ou j'ai observé mon rapport à la sexualité, quel est mon rapport au plaisir et à l'orgasme? Parce que de ta vision de la sexualité va dépendre ta vision de l'orgasme et du plaisir. C'est pas pareil. Une personne qui trouve que la sexualité c'est sale ou bien c'est tabou, elle pourra ne pas être à l'aise avec le plaisir et avec l'orgasme. Et donc du coup, ça va avoir une répercussion dans sa manière de gérer la sexualité dans son couple. Donc ça, c'est pour l'homme et la femme de chaque côté. Maintenant, la deuxième chose, c'est comment votre couple fonctionne. Et là, il y a
dans le quotidien, en fait.
Comment il fonctionne? Il y a un milliard de manières. C'est-à-dire comment ça fonctionne sur le plan psychologique, ouais. Sur le plan physiologique, sur le plan physique, sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, sur la vie quotidienne, ouais. Les finances, les enfants, la belle famille, et puis votre vie de couple, c'est-à-dire votre intimité, la communication, la complicité, ouais. la fidélité, l'attirance, l'admiration. C'est tout ça. Donc, en fait, il y a d'abord comment moi je fonctionne en tant qu'être seul, en tant qu'homme, en tant que femme. C'est quoi mon rapport à la sexualité? C'est quoi mon rapport à mon corps? C'est quoi mon rapport au plaisir? C'est quoi mon rapport à l'orgasme? Et comment on fonctionne tous les deux dans notre couple? Et ça, en fait, quand il disait tout à l'heure au début, la femme, elle veut du sexe, puis après, elle veut plus. Mais c'est parce qu'il y a aussi, dans comment je fonctionne moi en tant que femme, il va y avoir, c'est quoi mes attentes, c'est quoi mes envies, c'est quoi ma projection? Et si j'ai été formatée par une société sénégalaise ou malienne ou guinéenne, où en fait je ne vais exister que parce que je vais être mariée, je peux être chez mon père et ma mère, avoir un boulot, avoir une voiture, avoir acheté un appartement, être reconnue parce que je suis quelqu'un de compétent dans mon développement professionnel, là parfois si je ne suis pas mariée, c'est un problème. Donc je ne vais avoir de cesse que de chercher l'homme qui va venir me légaliser pour me mettre devant la société ou chercher un enfant. Donc dans cette recherche-là effrénée, ou parfois même éperdue, ben, je vais peut-être revoir mes exigences à la baisse, ou parfois je ne vais même pas être focus sur mes exigences. Je vais juste attendre l'homme qui va venir m'épouser. Et donc pour que cet homme-là m'épouse, ben, je vais rentrer un peu dans le moule. Je vais lui montrer que moi je suis une personne formidable. Je ne me fâche jamais, je ne boude jamais, je suis tout le temps gentille, je suis soumise, je partage tout ce que j'ai, mon argent c'est ton argent, et puis ben je suis une femme qui va te faire la cuisine, qui va s'occuper de toi, etc., etc. Si j'ai des relations intimes avec toi, je vais tout faire pour que tu te dises tiens, la gola, elle est époustouflante. Elle est époustouflante. Elle me fait grimper au rideau. Elle m'attrape ici, elle me truque là-bas. Et je ne vais pas forcément m'occuper de moi parce que je vais être à fond sur toi. Et quand on va se marier, ok, et que en quelque sorte, je vais un petit peu atterrir hein, de ma lune de miel, je vais commencer à rentrer, parce que c'est ça, on rentre dans le mariage. Le mariage, c'est pas rose du matin au soir, c'est pas la lune de miel du 1er janvier au 31 décembre. Et ce qu'on va libérer comme endorphine au début de la relation, parce que c'est tout nouveau, tout beau, bah, une fois qu'on est dans le mariage, on est obligé d'atteindre la vitesse de croisière. Ok, donc à un moment, quand on atteint la vitesse de croisière, il faut maintenant commencer à cultiver le jardin. On nous a donné un terrain, on a dit « Oh, le terrain est beau, il est magnifique, il sent bon, il est joli. » Non, en vrai, ma sœur, mon frère, le terrain là, c'est un terrain nu, il n'y a rien dedans, c'est comme au Monopoly. Tu tombes sur une case, tu achètes, mais après, il faut construire, sinon tu ne peux pas rentabiliser. Donc en fait, ton terrain nu, maintenant, il faut que vous déterminiez tous les deux, vous allez mettre quoi dedans ? Et comment vous allez faire pour planter, pour pouvoir récolter ? Il faut semer les bonnes graines. Et semer les bonnes graines en matière de sexualité, c'est être conscient qu'on est deux personnes qui fonctionnent différemment. Ok, et que moi j'ai peut-être des blocages, je suis peut-être complexée par certains aspects de mon corps, je suis peut-être pas très, un peu prude parce que bon, ben pour moi la sexualité c'est encore tabou, ok. Et même si je ne suis ni prude ni complexée, que j'aime mon corps, que je sais que moi je mougoulis bien, ok, et qu'on grimpe ensemble au rideau, ok. Mais quand on va rentrer dans le terrain là pour commencer à récolter, à planter, à arroser, il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, il y a les
saisons. Absolument, absolument.
Il y a le boulot, il y a les finances, il y a les enfants, il y a la belle famille, il y a la fatigue, il y a la maladie, il y a le caractère, il y a les hormones, il y a les règles, il y a plein de choses qui peuvent venir remettre en question le mougouli du début et on ne comprend pas.
Donc la baisse de libido dans un couple, c'est normal ?
Ce n'est pas anormal, en tout cas. Voilà. J'aime pas le terme de normalité, mais c'est quelque chose qui peut arriver plus fréquemment qu'on ne le pense. Ce n'est pas parce que ma sœur, tu es jonguée, tu as tes perles, tu sens bon, tu es belle, tu machin, que tu n'auras pas de problème de libido, que tu n'auras pas de baisse de désir. Je disais dans une vidéo, je fais un peu de pub pour ma chaîne TikTok qui s'appelle Délicieuse
Imparfaite.
Vas-y,
vas-y, vas-y, parce que franchement,
Abonnez-vous. Je parlais du fait que la première zone érogène chez la femme, c'est son cerveau. La femme est cérébrale, elle fonctionne avec son cerveau. Elle a besoin d'être stimulée cérébralement. Donc, avant le mariage, quand elle donne à son homme là, et qu'elle veut être bien, qu'elle veut être la meilleure, etc., ou en début de mariage, quand elle donne à son homme, en fait, ce qui la stimule, c'est la projection qu'elle se fait de ce mariage là. Mmh. Elle est contente, elle est sur son petit nuage, elle s'est mariée, elle a mis ses photos sur les réseaux sociaux, on a dit vous êtes beau, machallah, hein, que Dieu vous protège, etc. Elle ne pense qu'à une chose, c'est faire son bébé, parce que comme ça, ça va venir compléter le schéma. Donc ça, elle-même, elle est sa propre stimulation. Et tant qu'elle est dedans, ça va. Son homme est là, il y a des petits problèmes, mais ma sœur, c'est pas grave en fait, on va gérer. Elle se dit qu'elle va gérer. Puis à un moment, souvent quand le bébé arrive ou quand il n'arrive pas, parce que l'infertilité, ça peut être aussi une cause de baisse de désir.
Oui.
Souvent quand le bébé arrive, il y a la grossesse, il y a les hormones, puis la femme là, il faut dire la vérité, il y a des femmes qui sont enceintes, qui sont très sexy, qui sont très jolies, qui restent jonguées. Puis il y a des femmes, vraiment... C'est une grossesse, vraiment. Elles n'ont plus le temps. Elles deviennent foncées parce qu'elles n'ont plus le temps de mettre les produits.
Ouais, elles ont d'autres priorités.
Elles sont fatiguées. Elles ont les pieds qui enflent. Elles sont pas forcément à l'aise avec leur image. Et le mari, il est débordé. Il comprend pas. Il ne comprend pas où est passé son Amazon du début.
Ils sont au bout de leur vie.
Et il sait pas. Il dit, mais mon Amazon du début, je comprends pas. Elle a des nausées. Parfois, il y a des femmes, elles veulent même plus sentir leur mari. Elles supportent plus qu'on les touche. Et le mari, il est démuni. Parce qu'au début, ce qu'on lui a vendu, et ce qu'il trouve après, bah, y a une différence et lui comprend pas. Et ça, lui, comme il n'est pas forcément outillé, parce qu'il se dit non, ma femme m'a vendu qu'elle est une superwoman, donc elle, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais mon gars, en fait, elle t'a vendu du rêve.
Et c'est une période, ça, la grossesse, l'accouchement, etc., qui crée beaucoup de distension ou de
souffrance. Je pense que tu en sais quelque chose, que moi, je n'ai pas d'enfant. Malheureusement, Dieu ne m'a pas fait.
Je
ne vais
pas raconter mes histoires ici, pardon.
Mais voilà.
Dossier personnel, ça va, assez personnel. Il y a un auditeur, tu veux qu'on le prenne rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps.
Allons-y, allons-y.
Allô ?
Oui, allô, bonjour.
Ah, j'aurais aimé une auditrice, mais bon, c'est
bonjour.
Un auditeur, on va faire avec.
Elles sont où les auditrices ?
Vous allez être obligé de faire avec moi.
Bonjour, comment vous appelez-vous ?
Moi, c'est Dickens.
Dickens ?
Oui.
D'accord, on vous écoute.
J'apprécie vraiment votre mission, vous faites un travail exceptionnel.
Merci.
Félicitations beaucoup pour cette idée. Moi, le travail que vous êtes en train de faire, j'apprécie énormément. Pourquoi ? Parce que on est tombé dans, quand on parle de la sexualité, les gens pensent en c'est l'acte sexuel directement. Quand on dit à un parent de faire l'éducation sexuelle d'un enfant, la personne va penser exactement l'acte sexuel. Vous êtes en train de déchiffrer également tout ce qui a rapport à la sexualité. C'est une très très bonne éducation. Nous, dans notre communauté africaine, on a un souci avec la sexualité, mais, puisque ça vient de surtout par rapport aux familles qui sont des familles religieuses, surtout, parce que c'est tabou de parler de la sexualité. On est tombé là-dedans, comme ça, et on voit tout ce qui nous est arrivé avec l'expérience. On a peur de parler de ça avec nos enfants, tandis qu'on devrait en parler davantage à nos enfants pour que les enfants ne puissent pas tomber là-dedans comme nous. Ils devraient savoir c'est ce qui les attend.
Merci. Merci pour votre propos. Juliette, tu veux lui répondre ?
Oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous sur la question de l'éducation sexuelle chez les enfants. En fait, c'est pas une éducation à la sexualité. C'est pas une éducation à la pornographie. C'est pas une éducation à la débauche. C'est une éducation sexuelle. Ça veut dire que nos enfants ont des organes génitaux. Nos enfants ont des hormones au moment de l'adolescence, à partir de 12, 13, 14 ans. Les garçons, les petits garçons, enfin les jeunes adolescents vont commencer à avoir ce qu'on appelle entre guillemets malheureusement les pollutions nocturnes. Ça veut dire qu'ils vont avoir des éjaculations la nuit, et on va avoir des mamans qui vont voir ça, qui vont changer les draps, qui vont rien dire. On ne dit rien aux petits garçons, de la même manière qu'on va avoir des filles qui vont avoir leurs premières règles. La maman va les appeler, va leur donner des serviettes hygiéniques, va leur dire tiens prends ça, et puis voilà. Moi je reçois tous les jours en coaching des femmes qui me disent moi j'ai eu mes règles, ma mère ne m'a jamais dit ce que c'était, elle m'a fourré des serviettes hygiéniques dans la main. Et puis voilà, elle m'a pas dit.
Attention à toi maintenant.
Elle m'a dit voilà, ne je veux pas te voir avec les garçons. Hein.
Merci en tout cas pour votre intervention. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Juliette Bas, je rappelle que tu es journaliste, multicasquette, tu es coach mieux-être. Là, on va parler mieux-être au féminin. Et aujourd'hui, on a décidé de parler du désir dans le couple. Franchement, ça a été vraiment. Super intéressant. Alors, tu es sur tous les réseaux. Il y a une vidéo, en fait, sur TikTok qui a fait beaucoup de bruit, où tu dis aux coachs qui se lèvent là le matin, qui disent « Ouais, je suis coach de couple, coach séduction, etc. » On connaît le sujet. Ouh ! Ça part dans tous les sens, hein.
En fait, moi, j'ai pas de souci avec le principe de coacher, hein. Moi, je suis coach en mieux-être, et je suis parfois la cordonnière la plus mal chaussée. Ça veut dire que je donne des techniques, je transmets des choses, mais voilà,
des fois, on entend des trucs,
voilà.
Franchement, Juliette.
Mais ce que je veux dire, c'est que, il faut pas, banaliser le problème de la libido dans le couple et de la baisse de désir. C'est pas juste une question de se mettre, en Wolof, chez nous, on appelle ça le Ananyai. Ananyai, c'est le vagin de la femme. Et souvent, il y a un gynécologue qui s'appelle Dr Ablaï Diop qui dit arrêtez de mettre Ananyai, c'est pas une cuisine, c'est pas une casserole. Arrêtez de mettre n'importe quoi dedans, de l'ail, de l'aloe vera, du piment, du poivre et ce genre de choses.